qui n'est pas la qualification pour entrer dans le débat croissance-décroissance. Par contre, ce que vous avez dit sur. Je ne pense pas que la fiscalité des entreprises favorise la croissance. Je pense qu'elle favorise la finance. C'est tout à fait différent. Les allègements, notamment les fameux régimes de groupe, ont été faits sous couvert d'attractivité fiscale, c'est-à-dire on va attirer chez nous des grands groupes, ça va être très bien pour la croissance et pour l'emploi. Bon, ça, c'était le discours. Mais la réalité, c'est qu'on a accordé des régimes qui ont procuré un effet d'aubaine et qui ont dégagé une capacité de ces grands groupes, une capacité financière pour prendre des positions parfois sur des marchés, pour, si vous voulez, monter des fonds, spéculer, etc. Puisque c'était le jeu, ils le reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes aujourd'hui, les grands groupes, qu'il s'agisse des banques, des assurances ou même du grand groupe industriel, ont d'abord favorisé des stratégies financières pour dégager à court terme du profit. Enfin et notamment, la stratégie, c'était quoi? C'était acheter des actions et dégager un rendement par action le plus élevé possible, le fameux return on equity. Certains disaient c'est 15%, ce qui supposait, dans un contexte où la richesse nationale pouvait augmenter à 3-4% par an, il y en avait qui arrivaient ponctuellement à dégager 15%, ce qui n'est pas du tout que facteur de déséquilibre. Donc ça n'a pas favorisé la croissance, ça a favorisé ça, cette stratégie, parce que si ça avait favorisé, entre guillemets, la croissance au sens classique du terme, il y aurait eu des investissements dits productifs et on aurait continué sous l'empire du capitalisme. Des années 50, des 30 glorieuses, quoi, pour faire court, hein, voilà, avec un système d'accumulation, de production, etc. Or, ça n'a pas été ça. Il y a eu une stratégie de dégager une marge de manœuvre pour la finance et de compression des coûts salariaux, sociaux, d'où les délocalisations, d'où la modération salariale, etc., qui ensuite a entraîné la dette privée, puis ensuite la dette privée crise, etc. Donc voilà, moi ce que je voulais pas, par contre, on peut tout à fait imaginer une fiscalité voilà, qui soit incitative et qui favorise telle ou telle opération économique, dans le cadre d'une transition écologique par exemple. La fiscalité, c'est un outil qui réoriente des richesses. C'est ce qu'il faut voir. Je prends des richesses et je les réoriente en fonction d'objectifs sociaux, économiques, éventuellement environnementaux. Donc, comme, j'allais dire, tant qu'il y aura de l'argent, il y aura besoin de redistribuer les richesses. Et donc, la question qui est posée pour les productivistes, comme pour les décroissancistes, comme vous, bon, voilà, à toutes les sensibilités, c'est comment peut créer des richesses, c'est parfait, et les rediriger, et selon quel objectif? Et je ne rentre pas plus loin dans ce débat-là, je n'en ai pas les compétences. Je m'excuserai, la deuxième question, je les appelle. Pardon. Alors, la TVA. La TVA, pour l'instant, le taux normal de TVA, il est compris entre 15 et 25%. C'est légiféré au niveau de l'Union européenne, qui a établi une liste de produits qui sont dans les taux normaux, une liste de produits qui sont dans les taux réduits. Rappelez-vous la comédie sur la TVA dans la restauration, c'était dans les taux normaux, il a fallu toute une négociation dont j'ignore les contreparties, mais qui doit être assez saignante pour l'économie française pour favoriser un lobby, on va dire comme ça. Alors, pour l'instant, donc, le taux normal est en place entre 15 et 25%. 25%, vous avez des pays qui ont un taux à 25%, vous avez le Danemark qui a une TVA sociale à 25%. Mais eux peuvent se payer cette TVA élevée parce qu'ils ont un impôt sur le revenu qui représente la moitié des recettes de leur État. Donc ils peuvent supporter une TVA à taux élevé à partir du moment où leur impôt sur le revenu est très progressif, ce qui fait diminuer les inégalités. Et donc chacun a la capacité de faire face à une TVA à 25%. Donc pour l'instant, c'est plafonné à 25%. Mais là, vous avez raison, c'est que ce débat revient parce que sur la structure de la TVA, où on allait vers plus de simplicité, y compris encore aujourd'hui, vous avez quelques UMP qui disent qu'il faudrait tout passer au taux normal parce que ça dégage des ressources. On est plutôt sur, de plus en plus, au sein de l'IMP comme dans d'autres parties, sur une adaptation de la TVA avec des taux intermédiaires, je disais 15%. Et effectivement, il pourrait y avoir un certain nombre de produits. Alors, ça peut être des produits de luxe, ça peut être des produits particulièrement nocifs, pourquoi pas, surtout écologiques, hein, si c'est possible. Et ça suppose un débat européen pour crever le plafond des 25%. Le revenu maximum, de la fatigue. Hein. À force de gueuler contre l'injustice fiscale, on est fatigué. Le revenu maximum, il est, comment dire, donc aujourd'hui, il y a deux trucs, c'est le revenu minimum et le revenu maximum. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le revenu minimum aussi, parce que je pense que c'est tout aussi, enfin, au moins aussi important pour la vie en société. Mais aujourd'hui, il y a le débat sur le revenu maximum. Alors, moi, j'y suis, comment dire, je suis pour une progressivité marquée. Pour les barèmes sur lesquels je travaille, je tourne autour de 60-65% de taux. En taux marginal. On a fait une note avec la Fondation Copernic, moi j'ai fait un barème jusqu'à 60-70% et d'autres allaient jusqu'à plus, mais pour montrer l'impact que ça aurait. Ce qu'il faut voir là-dessus, c'est, en tant que syndicaliste, dans la répartition, dans le circuit des richesses, ben, j'ai plutôt envie, déjà qu'au stade de la distribution primaire, il y ait une modernité possible. Donc, il ne faut pas oublier ça. Mais effectivement, dans le contexte actuel, le pouvoir de négociation a basculé, pas en faveur des salariés malheureusement, la fiscalité peut jouer un rôle. Alors, moi, j'ai tendance à penser qu'à 60%, de toute façon, c'est déjà assez désincitatif. Et que, mais c'est le seuil minimum, je suis d'accord qu'ensuite on peut discuter, mais au-delà d'un certain seuil, vous désincitez en clair, les entreprises à verser de trop hautes rémunérations. Et si vous les désincitez, alors spontanément, vous versez des rémunérations un peu plus normales et morales, et spontanément, ça peut contribuer à réduire les inégalités. Donc ensuite, c'est plutôt, je vais pas dire que c'est un débat d'esthète entre 60 et 100%, je pense que la clé, c'est le ressenti de l'opinion et l'acceptabilité sociale, mais à partir du moment où le débat est mené jusqu'au bout, et pour l'instant, on n'y est pas. Donc, je n'ai pas de tabou sur le revenu maximum. La façon dont on y arrive, je pense que si aujourd'hui, tout de suite, on disait 60%, ça serait plus accepté que si on disait 100%, alors qu'en réalité, probablement, ça aurait à peu près le même effet.